La construction historique d'une politique de la culture. Un podcast de l'Observatoire des politiques culturelles et du Comité d'histoire du ministère de la Culture. Une séquence proposée par Guy Saez. Le pessimisme culturel après 1848 et la fin du 19e siècle.
Autant dans la première moitié du XIXe siècle, qui est toujours sous l'influence des idées de la Révolution de 1789 et du romantisme, on peut parler d'un certain optimisme culturel parmi les élites politiques, artistiques, sociales. Autant après la Révolution de 1848 s'installe une sorte de pessimisme dans les mentalités culturelles françaises. Et c'est de ce pessimisme-là que je voudrais parler, parce qu'il a une importance considérable sur la manière dont on va considérer les rapports entre culture et politique jusqu'à la fin du XIXe siècle et peut-être même jusqu'au début du XXe. Alors, pour en parler, je crois qu'il faut essayer de comprendre comment est construite ce sentiment de pessimisme. Il se construit, à mon avis, autour de trois dimensions. La première, c'est une forme de désillusion politique à l'égard, justement, des promesses non tenues de la Révolution, et particulièrement de celle de 1848, qui a été un moment un peu confus entre des aspirations républicaines, et qui ont été très fortes et qui ont donc abouti au renversement du régime de la monarchie et l'installation de la Deuxième République, suffrage universel, etc., mais qui s'est finalement abîmée dans un plébiscite bonapartiste et qui a mis en place une forme d'autoritarisme avec le Second Empire et Napoléon III. Donc, du coup, il y a, face à ces événements-là, une prise de distance de pas mal d'artistes qui se posent la question est-ce que, finalement, toutes les théories que l'on a faites sur l'art émancipateur ont quelconque sens, une quelconque importance dans la construction de la société. Donc, c'est premier élément, une désillusion politique profonde. Deuxième élément, une dépolitisation de l'art. C'est une conséquence, effectivement, de cette désillusion. La volonté de reprendre certains éléments théoriques qui avaient déjà été énoncés dans la première moitié du XIXe siècle autour de ce qu'on appelle l'art pour l'art. C'est une théorie qui a été forgée notamment par des gens comme Théophile Gautier, puis ensuite Flaubert, Baudelaire, Mallarmé à la fin du siècle, et qui estime que l'art n'a pas d'autre justification que lui-même, et que surtout il ne faut y introduire aucun moralisme et aucun sentiment étranger à l'art. Sentiment national, sentiment religieux, sentiment de quelque sorte que ce soit, seul le sentiment esthétique doit être considéré lorsque l'on parle d'art, lorsque l'on produit de l'art, lorsqu'on le contemple. Et du coup, l'art pour l'art, c'est quelque chose qui devrait ou qui ne devrait servir à rien. Comme le dit très bien Théophile Gautier dans sa préface « Mademoiselle de Maupin », il n'y a vraiment de beau que ce qui ne peut servir à rien. Donc on a là quelque chose d'assez clair sur une position qui est tout à fait contraire aux positions socialistes, celle de Proudhon sur la destination sociale de l'art, celle de Marx et de bien d'autres. Un peu plus tard, Stéphane Mallarmé sera encore plus radical Il dira, dans un manifeste qu'il écrit qui s'intitule « Hérésie artistique, l'art pour tous », l'art pour tous est une hérésie artistique, il dira « Poète, vous avez toujours été orgueilleux, soyez plus, devenez dédaigneux. » Dédaigneux face au profane qu'il faut aveugler à travers un art qui est réduit finalement à une expression particulière, uniquement admirée, comprise, goûtée par les happy few, donc par une élite extrêmement choisie. Et on ira un peu plus loin au début du XXe siècle avec un manifeste du futurisme qui énonce que l'art soit périsse le monde. Donc on voit bien là à quel point il y a une forme de mythification de l'art et de l'artiste. Le troisième élément, c'est la naissance d'un mythe très puissant qui est celui de l'artiste solitaire, isolé du monde, souffrant, mais puissant. Et cet artiste-là, il peut se définir contre. Il est contre les institutions de l'État, pour lesquelles il n'attend aucun secours, parce que l'État, c'est la bureaucratie, et la bureaucratie est forcément imbécile, ou en tous les cas, courte vue, pas de goût, pas d'empathie pour l'art. Contre les bourgeois, contre le commercialisme en art, c'est-à-dire contre la manière dont, à l'époque, l'art est produit à travers des phénomènes du commerce. Le théâtre est un commerce, et les autres divertissements également. Et aussi donc contre la gauche pédagogique ou contre l'art philosophique, ces formules art philosophique ou art pédagogique, voulant indiquer tout le mépris que l'on a pour la tradition sociale de l'art de la gauche française. Donc ces trois positions, ces trois éléments vont perdurer pendant très longtemps. Alors on le voit à travers la littérature, l'opéra, on voit la bohème, le thème de la bohème, le thème de l'artiste qui vit pauvre et solitaire, souffrant dans sa mansarde, est une image prend beaucoup de sens à ce moment-là de l'histoire culturelle. Cela entraîne des conséquences. Alors, c'est sur ces conséquences que je voudrais insister maintenant. La première des conséquences, c'est une forme d'abstention de l'État. Dans la mesure où les artistes ne reconnaissent pas l'État comme une institution capable de venir en aide à l'art, donc ils le rejettent, et le rejetant, évidemment, ils ne peuvent en attendre aucun secours. Et du coup, l'État ne se précipite pas non plus pour leur venir en aide par les moyens habituels, les commandes, les subventions, etc. Donc cette abstention de l'État, elle a des conséquences extrêmement fortes dans, par exemple, un mouvement comme le mouvement du théâtre révolutionnaire, du théâtre du peuple, que Romain Rolland veut mettre en place à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Romain Rolland a un projet de théâtre populaire qui est extrêmement argumenté, qui est très articulé, qui est un projet très, très mûri. Et il cherche évidemment à le faire, à le mettre en œuvre. Et comme cela coûte cher, la seule possibilité qu'il aurait serait de demander des subsides à l'État. Mais comme justement cet État, il est honni parce qu'il est béotien ou philistin et peuplé par des bourgeois, alors il ne voudra pas demander des subventions à cet État-là. Donc on voit à quel point la situation est contradictoire. On veut mettre en place une grande politique pour permettre au peuple d'avoir accès à l'art, au théâtre par exemple, mais on refuse les moyens du service public qui serait ceux de l'État. Donc ça c'est une première conséquence très très importante, et donc on verra qu'elle se poursuivra pendant plusieurs décennies encore. sur ce point, Vincent Dubois a écrit dans son ouvrage « Poétique culturelle, Genèse, une catégorie d'intervention publique » une analyse qui me semble extrêmement intéressante. Deuxième conséquence, c'est de mettre l'art vivant en marge, puisqu'il n'a pas accès aux subventions de l'État, puisqu'il n'est pas institutionnalisé, alors il est en marge, forcément. Et cette marge entraîne là aussi une série de difficultés pour les artistes. La première de ces difficultés, c'est que, par exemple, les peintres, notamment, et tout le courant de l'art vivant de l'époque, c'est-à-dire le courant de l'impressionnisme, en passant ensuite par les fauvismes, le cubisme, l'art abstrait, etc., tous ces peintres-là ne seront pas reconnus par l'institution artistique, c'est-à-dire par les musées de l'époque, notamment le Louvre, par exemple. Ils ne seront pas reconnus non plus par les institutions des beaux-arts qui sont responsables de passer des commandes aux artistes et qui font vivre un certain nombre d'artistes. Donc ces artistes en marge vont le rester pendant très longtemps, jusque dans les années 30. Et le fonctionnement de l'Académie des beaux-arts, dans lequel sont cooptés des artistes qu'on va appeler traditionnalistes, quelquefois on dira pompiers, ce système de cooptation à partir des directeurs des écoles des beaux-arts, du directeur des beaux-arts au ministère, des anciens prix de Rome, des grands artistes reconnus mais faisant une peinture qui est totalement à l'opposé de celle des impressionnistes, une peinture orientaliste, une peinture antiquisante, une peinture allégorique, alors que les impressionnistes essaient de suivre le principe qu'avait été celui de Baudelaire, peindre la vie moderne. Peindre la vie moderne, c'est sortir dans la rue, avoir des impressions de la vie quotidienne et les donner sous sa forme artistique dans les tableaux. Une affaire extrêmement intéressante de cette période, c'est celle du legs Caillebotte. Caillebotte est un peintre renommé de l'époque, qui se trouve être un ami des impressionnistes, et il fait un testament, il meurt en 1894, dans lequel il lègue l'ensemble de sa collection d'impressionnistes au musée français, et notamment au musée du Louvre. Et il faudra attendre 1929 pour que cette collection soit montrée. 1894-1929, et il faudra attendre 1949 pour qu'un musée de l'impressionnisme soit créé en France. Le résultat, c'est que dans la mesure où l'État ne s'est pas intéressé à ces œuvres-là, la plupart de ces œuvres ont été achetées par des collectionneurs étrangers, par des musées étrangers, par des collectionneurs étrangers. Les grandes collections de Matisse sont en Russie. Et la plupart des peintures impressionnistes sont dans les musées et les collections américaines. Donc on voit à quel point il y a eu une dépossession de l'art vivant et à quel point ce phénomène de l'académisme a été un obstacle à une considération d'une politique culturelle, disons, vivante, harmonieuse, en tout cas en prise avec son temps. Et il faudra attendre finalement la guerre, la Première Guerre mondiale et les transformations très importantes qu'elle va susciter sur le plan politique comme sur le plan des institutions et du rapport à l'art pour que ce système soit finalement mis à bas. Alors, il est intéressant de voir que dans d'autres pays, on va avoir des conceptions un peu différentes de celles de l'art pour l'art. Et c'est exactement le cas dans cette période, des années 1860 jusqu'à la fin du 19e siècle, en Angleterre, où des critiques d'art, des intellectuels, des militants, comme Matthew Arnold, John Ruskin ou William Morris, vont au contraire essayer de mettre en place une théorie, à la fois une théorie sur la démocratisation de l'art et de la culture. C'est le cas, par exemple, de Matthew Arnold. Mais aussi une théorie de, et c'est la première d'ailleurs dans la littérature de l'époque, une théorie sur le rôle des industries culturelles. John Ruskin va écrire par exemple un livre qui s'appelle « L'économie politique de l'art ». Et pour la première fois, nous sommes dans les années 1860, il pointe le danger des distractions populaires telles que le music-hall de l'époque, le théâtre de pantomime, etc., comme un élément de déstructuration de la culture, de la grande culture telle qu'il la conçoit. Donc il y a là une prescience hein, des temps à venir et du rôle que vont jouer les industries culturelles plus tard, qui est tout à fait intéressante. Quant à William Morris, c'est un socialiste. Par ailleurs, il est aussi industriel et il souhaite beaucoup plus concrètement faire en sorte que le cadre de vie de la classe ouvrière soit aménagé avec beaucoup plus de beauté. Et donc il va créer des papiers peints, des meubles, un ensemble d'éléments décoratifs pour la maison à très bon marché pour que les gens de la classe ouvrière puissent avoir accès au beau. C'est un élément là aussi tout à fait nouveau, tout à fait intéressant. Il avait une formule qui est, je crois, tout à fait actuelle. Je ne veux pas l'art pour une toute petite minorité, ni l'éducation pour une petite minorité, ni la liberté pour une petite minorité, mais je veux l'art pour tous. Et Matthew Arnold avait eu, avec une concision extrême, la formule de la démocratisation culturelle, the best for the most, le meilleur pour la plupart, le meilleur pour le plus grand nombre. Et ça, c'est une formule qui date des années 1850. Donc on voit bien que les formules de la démocratisation culturelle ont voyagé à travers l'espace, à travers le temps, et ce n'est pas simplement une invention française des années 60.